sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Pour l'émission Maths.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Franca 95.1. C'est Arthur qui vous parle et c'est moi qui présente cette émission Maths avec les élèves de 407. Ce sera une émission consacrée aux sciences et aux mathématiques plus précisément. Durant cette heure, vous aurez un programme très varié, des points historiques au quiz, en passant par un micro-trottoir avec des interludes musicales. Bref, vous n'allez pas vous ennuyer. Je dirais même que vous allez aimer les mathématiques. Nous commençons tout de suite en accueillant Héloïse. Bonjour Héloïse.
Bonjour Arthur.
Aujourd'hui Héloïse, vous allez nous apporter un peu d'histoire en nous présentant un scientifique mondialement connu. De qui s'agit-il ?
Il s'agit d'Albert Einstein.
Très bien, je vous laisse donc la parole Héloïse.
Donc la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un homme qui a dit « L'imagination est plus importante que le savoir » ou encore « Placez votre main sur une poêle une minute, ça vous semblera durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure, ça vous semblera durer une minute. C'est ça la relativité. » Donc parmi vous, peut-être certains auront deviné que cette personne, c'est Albert Einstein. Donc la première fois que j'ai entendu le nom d'Albert Einstein, moi j'ai pensé à Frankenstein, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste deux noms qui se ressemblent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des plus grands scientifiques de l'histoire. Albert Einstein, c'est un physicien théoricien qui est né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne. Son père, c'est Hermann Einstein, qui est le patron d'une usine électrochimique, et sa mère, c'est Pauline Knorr, qui est musicienne. Albert Einstein, il va passer toute son enfance à Munich, et son goût pour les sciences, il débute très tôt à l'âge de 5 ans quand son père lui offre une boussole. Pourtant, Einstein, c'est pas vraiment un modèle de réussite scolaire. Il déteste apprendre par cœur et il se rebelle contre l'autorité de ses professeurs. Il est très fort en mathématiques, mais il est mauvais dans toutes les autres matières, notamment en langue. Et il souffre d'un retard de langage et il est dyslexique. Ses professeurs le considèrent comme un mauvais élève, étourdi, sélectif et peu motivé. Malgré cela, sa carrière professionnelle est brillante. En voici quelques exemples. À 12 ans, il apprend par lui-même la géométrie euclidienne. À 13 ans, il lit la petite Bible de la géométrie. Cet ouvrage le marque profondément et il lui enseigne le raisonnement logique et il lui fait abandonner toute croyance religieuse. À 15 ans, il finit sa scolarité à l'école secondaire à Aarau, en Suisse. Mais il sèche les cours, étudie la physique par lui-même et c'est à cette même période qu'il commence à jouer du violon. À 21 ans, il obtient un diplôme de polytechnicien. À 23 ans, il a un poste d'examinateur au bureau des brevets suisse à Berne. À 26 ans, il fait un doctorat de l'université de Zurich et réalise une thèse sur la dimension des molécules. Et il publie également 5 articles importants pour la physique du XXe siècle, notamment sur le mouvement brownien et l'effet protoélectrique, c'est sur les protons et quanta. À 30 ans, il obtient un poste à l'université de Zurich, puis 2 ans plus tard, à l'université de Prague. À 33 ans, il obtient un poste à l'école de polytechnique à Zurich et devient... À 34 ans, directeur de l'Institut de physique à Berlin. Du côté de sa vie personnelle, il se marie 2 fois. La première à 24 ans avec Mileva Maric, une camarade de classe avec qui il va avoir 2 enfants, Hans Albert et Edouard. Petite anecdote, il aurait même une fille, Liesel ou Elisabeth, dont l'existence, née vers 1902-1903, n'est découverte qu'en 1986 lorsque des lettres échangées entre Albert et Mileva sont retrouvées. Puis après, il épouse sa cousine Elsa. Albert Einstein, il voyage beaucoup. Il a été aux Pays-Bas, en France, en Chine, au Japon et à Singapour. Du côté de ses origines, il est juif et de ses opinions pacifistes, il fuit le régime politique nazi et l'Allemagne en 1933 pour aller s'installer aux États-Unis. Il va mourir en 1957 à Princeton, aux États-Unis, d'une rupture d'anévrisme. Du côté de ses découvertes scientifiques, c'est la forme E = mc², formule d'équivalence des masses énergie, qui est la plus connue de toutes ses découvertes. Mais Albert Einstein en a démontré beaucoup d'autres. Il obtient le prix Nobel de physique en 1921 pour ses travaux sous l'effet protoélectrique. Il démontre alors que la lumière se comporte à la fois comme une onde et comme un flux de protons. Aujourd'hui, l'effet protoélectrique sert à l'utilisation de panneaux photovoltaïques et de la photocopieuse. Ces recherches sur le mouvement brownien ont permis de prouver l'existence des molécules et des atomes. Einstein a aussi inventé des appareils et déposé de nombreux brevets en collaboration avec ses amis. Le voltmètre ultrasensible en 1908 avec Paul Harbrich, qui est capable de mesurer des tensions de l'ordre d'un dixième de millième de volt. Il a créé aussi différents réfrigérateurs non commercialisés avec son ancien étudiant et ami Léo Szilard. C'est des réfrigérateurs à absorption de gaz. C'est un système qui diffuse un autre électromagnétique. Ce dernier système s'appuie sur une pompe électromagnétique qui est utilisée pour transporter le sodium dans le réacteur à neutrons rapides et colporté en sodium. Un appareil de correction auditive, il a aussi créé ça avec Léo Szilard. Contrairement à ce que l'on pense, Albert Einstein n'a jamais contribué volontairement à la découverte de la bombe atomique. Ça allait contre ses convictions pacifistes. Mais d'où lui venait son intelligence hors du commun ? Pour le savoir, des clichés du cerveau d'Albert Einstein ont été comparés à ceux d'individus dotés d'une capacité intellectuelle dans la moyenne. Il apparaît que son cerveau avait un cortex préfrontal exceptionnellement développé, qui a pu contribuer au développement de ses capacités connectives exceptionnelles. Il possédait également d'autres anomalies au niveau du cerveau. Un cortex somatosensoriel qui traite ce qui est en rapport avec le toucher, un cortex moteur qui assure la coordination de nos mouvements en autres et hyper développé. Une densité de neurones anormalement élevée dans certaines zones. Donc pour finir ma présentation sur Albert Einstein, je vais vous raconter quelques anecdotes. Albert Einstein ne se préoccupait pas beaucoup des autres, des conventions, ni même de l'image qu'il pouvait renvoyer aux autres. Il n'a jamais passé son permis de conduire. Et le créateur de Maître Yoda dans Star Wars, Stuart Reborn, s'est inspiré de ses propres traits, mais aussi de ceux d'Einstein pour créer le Maître Jedi, pour donner un côté intelligent à sa créature. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur Albert Einstein, alors que la science soit avec vous.
Merci beaucoup, Héloïse. Et c'est l'heure du quiz mathématique. Bienvenue aux acteurs de ce jeu. Nous accueillons tout de suite Antoine.
Bonjour,
bonjour Antoine.
Bonjour.
Nous accueillons également Fiona. Bonjour, Fiona.
Bonjour.
Émilie.
Bonjour.
Et Vincent.
Bonjour.
Je vous laisse donc entre les mains d'Antoine.
Donc, comme vous l'a dit, je vais présenter le quiz aujourd'hui. Il y a Fiona, Vincent et Émilie. Donc, on commence avec les calculs mentaux. Question 1. Moins 5 fois 9. Personne ? Émilie ?
Moins 45.
Et voilà. On commence avec le premier point pour Émilie. Question 2. Moins 6,3 fois moins 10. Fiona ?
0,63.
Non, désolé. Vincent, tu levais la main ?
Je suis plus.
C'est pas grave. On peut toujours faire ça. On passe à la question 3. Moins 4 fois 2 fois 3. Personne. Non, c'est pas grave, on passe à... Racine carrée de 16. Fiona.
4.
Bravo, le deuxième point est pour Fiona. Question 5, qui est la dernière question de ce quiz. Racine carrée de 25. Vincent.
5.
Et c'est la bonne réponse. Cinquième question, c'est la dernière. On est sur une égalité. Donc, un point pour tout le monde. On passe dans les triangles rectangles. Question 1. Dans un triangle rectangle, comment s'appelle le côté qui a la plus grande longueur ? Vincent.
L'hypoténuse.
Bravo. Question 2. À quoi sert le théorème de Pythagore ? Fiona ?
Il sert à voir si un triangle est rectangle.
Non, enfin, c'est pas trop ça. C'est un peu large. Quelqu'un d'autre ? Personne ? Donc, bah, la réponse était calculer une longueur manquante dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, L, M, N, rectangle en L. Quelle est l'hypoténuse ? Donc c'est un triangle. L, M, N, rectangle en L. Jenna ?
L, M ?
Non. Vincent ?
M, N ?
Ouais, bravo. Donc partie 3, on est sur des énigmes. Première énigme. Nathan a 4 ans. son petit frère a la moitié de son âge. Lorsque Nathan aura 100 ans, quel sera l'âge de son petit frère ? Fiona ?
Il aura 98 ans.
Bravo. Deuxième ami. Aurélie a 10 bonbons le lundi. Chaque jour, elle double sa quantité de bonbons. Combien de bonbons aura-t-elle le jeudi ? Vincent ?
40.
Non. Fiona, t'avais une réponse ? Non, bah, désolé. La réponse était 80 bonbons. Partie 4. Les pyramides. Quel est le nom du point commun des faces d'une pyramide ? Vincent ?
Le sommet.
Bravo. Partie 5. Les pourcentages et la proportionnalité. Un article à 40 euros subit une réduction de 75%. Quel est son prix ? Pour une aide, on fait les trois quarts. Un article à 40% subit une réduction de 75%. Fiona ?
30.
Non, c'est pas ça.
Émilie ? 20.
Non plus. Quelqu'un d'autre ? Émilie ?
10.
Bravo, c'est ça. Donc, c'était la dernière question. Émilie aura 2 points, Fiona 2 points, et c'est Vincent qui remporte avec 4 points. T'as un peu dur, Vincent ? Ah oui, Vincent.
Merci bien pour ce quiz. Petite interlude musicale dans ce programme avec le titre « Sommeil » de l'artiste belge Stromae, tiré de l'album « Racine carrée ». L'ombre endormie de Pythagore vient par ici.
Tout ce que tu veux, sous tes fous rires et tes grands airs, c'est pas la peine, tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux, tu me fais de la peine. Je t'aime quand même, moi. Je suis pas tes potes, ni ton boss ou tes collègues, moi. Mais tu me prends vraiment pour un con. Tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque. Tes cernes en parlent encore. Tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle. T'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, t'as nous. Mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous. Mais tu n'as pas sommeil. Bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Si on sortait prendre l'air, au lieu de me prendre pour de la merde, prends-moi la main, sinon à quoi on sert, nous ? À part faire la fête, mec, je l'ai assez faite, moi. On se voit demain. Et si je comptais, je compterai pour toi. Je te compterai mes histoires. Et je compterai les moutons pour toi. Et si je comptais, je compterai pour toi. Je te compterai mes histoires. Et je compterai les moutons. Mais tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle. T'as tout, mais tu n'as pas sommeil.
Retour avec nous sur Radio Franca, c'est Arthur en direct de l'émission Matza. On continue tout de suite en accueillant Lucille. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Lucille a prévu de nous rapporter la biographie de l'un de ses scientifiques les plus reconnus. Parce que, rappelons-nous, la science est l'affaire des femmes et des hommes. Lucille, de qui s'agit-il ?
Il s'agit de Marie Curie.
Très bien, je vous laisse donc la parole.
Alors, Marie Curie, de son premier nom Maria Sklodowska, est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. À l'époque, le pays se nomme le Royaume du Congrès et est dirigé par les Russes, dont l'occupation est de plus en plus oppressante. Ainsi, sa famille doit faire face à de plus en plus de problèmes financiers. À l'âge de 9 ans, elle perd l'une de ses deux sœurs, puis sa mère un an plus tard. Elle se réfugie donc dans les études où elle brille dans toutes les matières. La jeune Marie obtient donc son diplôme avec la médaille d'or et intègre l'université volante, qui est illégale. Elle souhaite poursuivre ses études et enseigner à l'université volante, mais n'en a pas le droit, car elle est une femme. Sa sœur l'accueille donc chez elle, à Paris, en 1911, où Marie étudie à la Faculté des sciences de Paris. D'ailleurs, elle compte parmi les 27 femmes et les 7 étrangères sur les 776 étudiants. Elle est également élève à la Sorbonne et est première de sa licence de physique et seconde en mathématiques. Ensuite, elle passe l'agrégation et est reçue première, mais n'enseigne pas car elle souhaite préparer une thèse de doctorat. Elle rejoint en 1894 le laboratoire de Gabriel Lippmann, mais le quitte car elle se sent trop à l'étroit et veut mener des recherches personnelles. Elle rencontre alors Pierre Curie, avec lequel elle va travailler et se marier, devenant ainsi Marie Sklodowska-Curie. Ensemble, ils auront deux filles, Ève et Irène, qui deviendra Irène Joliot-Curie. Nous leur devons la découverte de la radioactivité, qui leur permet de gagner la médaille d'avis, dont elle est la première lauréate et un prix Nobel de physique en 1903. Outre Pierre Curie, elle collabore avec Claudius Rego et Henri Becquerel. En 1906, son mari meurt, mais Marie continue ses recherches, plus déterminée que jamais. Elle prend sa place de professeure à la Sorbonne, étant ainsi la première femme à y enseigner, et obtient, en 1911, le prix Nobel de chimie pour la découverte du radium et du polonium, nom choisi en hommage à la Pologne. Ce sont des éléments radioactifs, inconnus à l'époque. Vient ensuite la guerre, où elle met en place le premier service de radiologie mobile afin de soigner les blessés grâce aux rayons X, qui améliorent les conditions d'opération. D'ailleurs, on appelle les Curie les camionnettes qui sillonnent le front. En 1921, elle se rend en Amérique et est interviewée par Marie Melloney. Quand celle-ci lui demande « Quel est votre vœu le plus cher ?», Marie Curie répond qu'il lui faudrait 1 gramme de radium pour poursuivre ses recherches, mais qu'il est trop cher pour elle. Alors, Madame Melloney lance une collecte et offre 1 gramme de radium à la scientifique lors d'une réunion à la Maison-Blanche. Ainsi, elle est bien plus appréciée en Amérique qu'en France où elle est considérée comme une étrangère et sa condition de femme n'arrange rien. Marie Curie s'éteint en 1934, à 67 ans, suite à une leucémie due à toutes ses expériences concernant la radioactivité. Bien des années plus tard, elle est transportée avec son mari au Panthéon. Elle reste dans la mémoire de tous une femme exceptionnelle, la première à avoir eu 2 prix Nobel envers et contre toutes les idées sexistes de l'époque, et est tout simplement une des plus grandes figures féminines de l'histoire de la science.
Merci beaucoup Lucille. Nous passons tout de suite à Proportionnalité is watching you.
Vous êtes sur Radio Franca avec les 407 pour l'émission Matza.
Proportionnalité is watching you est une chronique destinée à vous montrer que la proportionnalité est omniprésente dans notre vie de tous les jours. Nous accueillons tout de suite Lio et Axel. Bonjour Lio et Axel.
Bonjour. Salut.
Je vous laisse l'antenne, expliquez-nous tout.
Alors bonjour à tous, je m'appelle Léo et aujourd'hui je vais vous parler de la proportionnalité. Alors souvent au collège on se demande à quoi sert l'apprentissage de la proportionnalité. Certains pensent que cela est inutile mais détrompez-vous, la proportionnalité est présente presque partout dans la vie de tous les jours. Je vais vous expliquer pourquoi au travers d'exemples divers et surtout concrets. Souvent dans notre vie, deux choses varient de la même façon, comme un plein d'essence et le prix à payer par exemple. Si je multiplie la quantité de l'essence par 10, le prix sera lui aussi multiplié par 10. Si je multiplie la quantité par 20, on multipliera le prix par 20 et ainsi de suite. On dit que ces deux choses ou ces deux grandeurs varient en proportion l'une de l'autre, et le nom proportionnalité est juste la façon d'appeler ce phénomène. Maintenant, imaginons que nous sommes en cuisine, nous avons envie de manger des soufflés au chocolat. Dans cette recette, on a besoin de 5 œufs, mais dans mon frigo, il ne m'en reste que 4. Je dois donc adapter ma recette et tous les ingrédients qui la composent en fonction de mes 4 œufs. Je divise donc 4 par 5 et j'obtiens 0,8. Il ne me reste plus qu'à multiplier tous les ingrédients, farine, sucre, etc. par 0,8. Ainsi, 100 g de farine pour 5 œufs donne 100 x 0,8, 80 g de farine. Dernier exemple, bien plus pratique au quotidien, vous hésitez entre 2 tablettes de chocolat de même qualité. La première coûte 3,60€ pour 150 grammes, la seconde 5€ pour 200 grammes. Vous êtes gourmand et un peu radin, laquelle choisir? La première, parce que 50 grammes de cette dernière coûte 1,20€, alors que pour la seconde, les 50 grammes coûtent 1,25€. Comme vous le voyez, savoir maîtriser la proportionnalité est bien plus utile qu'on ne le pense. Alors entraînez-vous, surtout si vous êtes gourmand et un peu radin.
On peut trouver la proportionnalité dans les magasins, dans les jeux vidéo par exemple. Dans un magasin, si je prends 2 baguettes de pain à 2,50€, donc 2,50 plus 2,50 est égal à 5€, car les baguettes sont les mêmes, donc au même prix. Les... Les parties courtes. Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut calculer la valeur de l'une en multipliant la valeur de l'autre par un nombre toujours le même, appelé coefficient de proportionnalité.
Bon bah, nous venons à la fin de cette émission. Conçu et dirigé par la classe 407. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Franca, en ma compagnie ainsi que celle de mes camarades. Nous remercions aussi notre prof de maths, Monsieur Mojard, pour nous avoir conçu cette émission. Nous avons essayé de vous proposer un programme le plus diversifié. Vous avez appris à connaître Monsieur Curie, Madame Curie et Monsieur Einstein. Vous avez pu mesurer vos aptitudes mathématiques via un quiz en direct. Pensez à travailler votre calcul mental, on ne le dira jamais assez. Vous avez pu entendre des personnes comme vous et moi donner leur ressenti sur les maths et vous êtes sûrement reconnus dans certains d'entre eux. Les mathématiques n'ont jamais laissé un élève indifférent. Enfin, vous avez pu comprendre, ou du moins prendre conscience, que les mathématiques sont présentes réellement dans notre vie de tous les jours. Le but de notre émission était de parler des maths thématiques de manière austère, mais bel et bien de vous les présenter sous tous leurs états, ludiques et historiques, réflectifs, pourquoi pas personnels aussi. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à Radio Franca de nous avoir donné cette chance de prendre l'antenne durant une heure. Bonne journée à vous, bonne journée à toutes et à tous sur Radio Franca. Et n'oubliez pas cette belle phrase de Charles Calbet-Coton, l'étude des mathématiques est comme le Nil, qui commence en modestie et finit en magnificence. Je vous laisse avec un micro-trottoir.
Mais monsieur, à quoi cela sert ? Voici le genre de questions que les élèves ont toujours l'habitude de poser. Questions légitimes, s'il en est. Seulement, par manque de recul, on ne peut effectivement pas toujours comprendre l'intérêt d'étudier le théorème de Pythagore et autres sinuosités d'esprit. Il faut parfois quelques années pour se rendre compte du bénéfice que nous ont apporté les mathématiques, ou parfois réellement et définitivement l'inverse, c'est-à-dire rien du tout. Que vous ont apporté les mathématiques durant votre scolarité ? C'est à cette question qu'ont répondu différentes personnes au cours d'un mini-trottoir. Femmes, hommes, personnes adultes ou jeunes adultes, travailleurs, étudiants supérieurs ou retraités. Leurs histoires ont fait qu'ils ont tous un avis sur le sujet. Tantôt positif, tantôt nuancé, voire pessimiste parfois, ce mini-trottoir authentique est là pour mettre en lumière l'héritage que laissent les mathématiques aux étudiants. Thomas, futur étudiant en mathématiques.
Et puis là, j'étais parti à l'armée. Ouais. Et puis une fois que j'étais là-bas, je me rendais compte que ça manquait énormément d'en faire.
D'accord.
Ça manquait beaucoup. Alors j'en faisais quand j'étais là-bas. Je faisais des maths niveau terminal, j'arrivais pas, hein, mais je m'entraînais, j'aimais beaucoup ça, tu vois.
D'accord.
Donc j'ai quitté l'armée pour ça, pour prendre des études de maths. Okay. Et là maintenant je fais tous les jours, matin, okay, midi, soir. Okay. J'ai plus l'esprit de logique que faire des dissertations d'histoire géo, tu vois, tout ça. Okay,
d'accord. Joël, hôtelier à la retraite.
Ouais, malgré tout, même si j'ai pas été à l'aise dans les mathématiques, je pense qu'il y a quelque chose qui se crée. Il y a, on ne voit pas qu'on ne peut pas quantifier, mais il y a une création.
Ouais. Kelly, professeur de mathématiques dans le second degré.
Je trouve que les maths, ça aide à réfléchir, à formuler une analyse. Ça m'a aidé à structurer mes réponses, même au niveau littéraire, on va dire. À analyser ce qu'on nous donne. Je trouve que ça, dans la vie, on peut utiliser. Tu as une situation que tu dois résoudre. Eh ben, t'as des options, tu les analyses, quelle est la conclusion possible, voilà.
Azilise, artiste, violoniste et professeur de musique.
J'ai une super prof, donc ça m'a beaucoup apporté au niveau du fait que tout est très carré, par exemple tout ce qui est équations. C'est vrai que pour d'autres matières, c'est beaucoup plus. Ça a mis plus de clarté.
Christophe, CPE dans un lycée.
Je savais que les mathématiques allaient être une matière importante au lycée et dans mes études supérieures. J'avais conscience que les mathématiques, c'était important.
Malika, élève de 3e du collège Alfred Mézières de Jarny.
Les maths, c'est ce qui nous servira à vie. Pour moi, il est indispensable parce que c'est une matière dans laquelle j'ai le plus de bonnes notes.
Eric, professeur de commerce et de vente au lycée professionnel.
Très mauvais en raisonnement, j'ai commencé à pomper en CM2 sur mes voisins, calcul mental, une catastrophe. À partir de la sixième, les ensembles, sous-ensembles, c'était ça je crois. Ça m'a complètement perdu. Ce fut le marasme total.
Philippe, professeur d'histoire géo et d'éducation civique dans le second degré.
La règle de 3, c'est la seule chose intéressante dans la vie.
Bernadette, AVS.
Je dirais que c'est indispensable au quotidien pour tout.
Pierre, médecin anesthésiste à la retraite.
Moi, les maths, ils ne m'ont pas beaucoup aidé parce que d'abord, j'ai eu de mauvais professeurs de mathématiques qui m'ont terrorisé avec les maths. Heureusement que ça ne m'a pas apporté préjudice parce que, effectivement, pendant jusqu'en fin de deuxième année de médecine, ça a été très présent. Les notions mathématiques étaient très importantes, mais j'ai pu m'en sortir, mais vraiment tout juste. Tout juste.
Esther, étudiante en lettres modernes à Metz.
Ça a peut-être servi pour les recettes de cuisine, tu sais, les grammes et tout. Sinon, non, pas vraiment.
Manuel, étudiant en droit fiscal des entreprises à Metz.
Alors, les mathématiques m'ont servi à m'inculquer une forme de logique que je peux réutiliser dans d'autres domaines comme le droit que j'étudie actuellement.
Paul, ingénieur développeur en informatique dans l'entreprise SAP en Allemagne.
Qu'est-ce que les maths m'ont apporté ? Ben, je commencerai par une réponse pratique. Pour moi, les mathématiques m'ont permis de m'éclater au billard. Une fois qu'on a compris comment fonctionne la géométrie dans l'espace, il ne reste plus qu'à appliquer la théorie. Sinon, de façon plus soutenue, je dirais que les maths m'ont apporté, de manière globale, une rigueur de travail qui m'est encore aujourd'hui extrêmement nécessaire et bénéfique en tant qu'informaticien. Je suis analyste programmeur en Allemagne chez un éditeur de logiciels. En fait, il s'agit d'apprendre à penser carré, sans laisser aucune information de côté. Dans le monde de l'informatique, le hasard n'existe pas. L'ordinateur exécute scrupuleusement ce que les programmeurs ont écrit. Je parle de ces fameux algorithmes dont tout le monde a déjà entendu parler et que chacun regarde un peu comme de belles boîtes noires dont personne ou presque ne comprend le contenu. Mais magiquement, lorsqu'on appuie sur un bouton, quelque chose se passe. Il faut donc être très rigoureux et tenter de tout prévoir sans rien laisser de côté. Bref, l'informatique, c'est l'application directe des mathématiques et hérite ainsi, d'après moi, son caractère de science exacte. Donc, à tous les férus de smartphones et autres geeks, rien de ce que vous appréciez tant ne pourrait exister sans les maths. Ciao !